Qu'est-ce que la vérité ? Dans un monde divisé par des théories religieuses contradictoires, y a-t-il une possibilité de déterminer ce qui est vérité ? Les chrétiens acceptent la Bible comme la parole de vérité divine. Quelles sont les vérités fondamentales enseignées par le livre des livres ? Nous examinons tous les livres de la Bible, et cette émission est consacrée aux lettres écrites par les apôtres Jean et Jude, dans lesquelles sont contenues quelques-unes des vérités de la Bible. Comme toujours, nos discussions sont faites dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces émissions internationales vous sont offertes par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur de la publication mensuelle Aurore, en coopération avec nos amis de partout. La question « Qu'est-ce que la vérité ?» fut posée à Jésus, il y a près de 2000 ans, par Pilate. La réponse se trouve dans la Bible et notamment dans les livres que nous allons examiner. Pierre, je remarque que l'apôtre Jean dit dans sa première épître « Nous écrivons ces choses ». À quoi s'applique l'expression « ces choses » ?
À chaque vérité qu'il mentionne dans sa lettre. L'une d'elles est la réaffirmation du fait rapporté par l'Évangile que Jésus avait une existence préhumaine, qu'il fut fait chair pour être le Rédempteur et Sauveur du monde.
Pierre, le cinquième verset de ce chapitre dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Qu'est-ce que Jean veut dire par l'expression « Dieu est lumière » ? Peut-il dire que Dieu n'est pas une personnalité ?
Certainement pas. La lumière est utilisée dans la Bible comme un symbole de vérité et de justice. Et Jean présente le Créateur comme étant la source et la personnification de toute vérité.
Je remarque aussi, Pierre, que dans ses lettres, Jean utilise souvent le mot « vérité ». Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « vérité » ?
Le mot « vérité », qui sert à Jean, embrasse tout le plan divin pour la rédemption et la restauration de la race perdue. Chaque trait de ce plan est dicté par l'amour et destiné à assurer à tous les humains obéissants une éternité de paix, de joie et de vie.
Pierre, au second chapitre de sa lettre, Jean écrit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. » Cela veut dire, comme je le comprends, que l'amour est une autre manifestation de la lumière, de la vérité.
C'est exact. Le plus grand exemple de l'amour divin est le Créateur lui-même. Dans son évangile, Jean écrit « Dieu aima tant le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ceux qui sont réellement dans la vérité s'efforcent de ressembler à Dieu en ce qu'ils manifestent une attitude aimable et dénué de tout égoïsme envers d'autres.
Au quatrième chapitre de la première épître de Jean, il dit que l'amour nous donne de l'assurance au jour du jugement. Que veut-il dire par là ?
Le jour du jugement du chrétien a lieu pendant toute sa vie présente. Et l'assurance dont il parle est le courage de proclamer la vérité à n'importe quel prix. Ceci n'a pas de rapport avec le futur jour du jugement du monde, car les chrétiens ne seront alors pas éprouvés. Jésus dit qu'ils ne seront pas jugés, mais ils seront, avec Jésus, les juges dans ce jour du jugement du monde. Comme je viens de le dire, le jour d'épreuve pour le chrétien, ou jugement, c'est maintenant. Sa fidélité à Dieu, à la vérité et à la justice est éprouvée de toutes les manières, et surtout son empressement à confesser la vérité.
Jean dit dans le 15e verset, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. »
Et cela, Thomas, dans les jours de Jean, fut une véritable épreuve. L'une des accusations portées contre Jésus amenant sa mort fut sa proclamation d'être le Fils de Dieu. cet antagonisme continue et se manifesta plus tard contre les disciples de Jésus qui proclamèrent la vérité à ce sujet.
Je comprends. Plus loin dans son épître, Jude le confirme. Sa lettre n'a qu'un chapitre et au troisième verset, il dit « Bien-aimés, comme je désirerais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Pierre, qu'est-ce que la foi transmise aux saints une fois pour toutes?
Brièvement, c'est le plan entier pour la rédemption et le salut de l'humanité. Un fondement à cette foi est la grande vérité exprimée par Jean que Jésus a été fait chair pour souffrir et mourir pour l'Église et pour le monde.
Pourtant, ceci n'est que le début. Je pense que la foi transmise aux saints une fois pour toutes comprend tous les enseignements de Jésus et des apôtres.
Oui, Thomas, de même que les enseignements des prophètes de l'Ancien Testament. Le thème principal des prophéties de l'Ancien Testament est que Jéhovah enverrait un rédempteur et roi, un grand messie, qui d'abord mourra pour le monde et plus tard reviendra pour établir un gouvernement universel par les représentants duquel toute l'humanité bénéficiera des bénédictions de santé et de vie.
Une des premières prophéties faisant l'objet de ce thème conducteur de la Bible est la promesse divine faite à Abraham que par sa semence, toutes les familles de la terre seront bénies.
Oui, et le petit-fils d'Abraham, Jacob, prophétisa que des descendants de son fils Judas viendra Shiloh, qui rassemblera tout le monde. Shiloh veut dire pacificateur.
Dans notre étude de la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons la merveilleuse promesse de la naissance du Christ et l'assurance qu'il donnera de l'accroissement à son gouvernement et une paix sans fin.
Le prophète Zacharie le confirme en disant que ce grand Messie et roi gouvernera d'une mer à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre.
Et je me souviens aussi, Pierre, que Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, prit comme symbole du nouveau roi le soleil de justice qui se lèvera avec la santé sous ses ailes.
Oui, et quelle merveilleuse illustration pour nous. Le monde souffre depuis plus de 6000 ans dans une nuit de péché, de maladie et de mort. Mais l'établissement du royaume de Christ dissipera les ténèbres, et les rayons réchauffants et guérissants du soleil de la justice donneront santé et vie à toutes les familles de la terre.
La venue du Christ fut le début de l'accomplissement de toutes ces merveilleuses promesses.
C'est exact. Quelques-unes décrivent son œuvre comme rédempteur, d'autres comme roi. Or, comme le dit l'apôtre Pierre, les souffrances du Christ et la gloire qui suivra.
Ces prophéties concernant les souffrances de Christ ont eu leur accomplissement à son premier avènement. Et celles se rapportant au royaume de gloire s'accompliront pendant sa seconde présence. Est-ce bien cela?
Oui. Tu te souviens que lorsque Jean-Baptiste annonça la première présence de Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ceci fut dit sous l'effet de l'inspiration et indique que Jésus est venu en ce temps-là pour mourir pour le monde, qu'il fut l'agneau immolé.
Mais Pierre, Jean-Baptiste dit aussi à ce moment-là que le royaume des cieux est proche. Comme si Jésus était venu pour être un roi.
Cela est vrai, Thomas. Mais dans le merveilleux plan de Dieu, le roi ou gouverneur meurt d'abord pour ses sujets, afin que lorsqu'il gouvernera, il pourra leur donner la vie.
Juste le contraire de ce qui se fait dans le monde, où le roi demande à ses sujets de mourir pour lui, afin qu'il soit maintenu au pouvoir.
C'est bien vrai, Thomas. La Bible révèle qu'aux disciples fidèles de Jésus de cet âge sera donnée l'occasion de régner avec lui, à condition qu'ils déposent fidèlement leur vie comme il l'a fait. Ce que Paul décrit comme un baptême dans la mort et un baptême en faveur des morts. Lorsque cette œuvre sera complète, toutes les merveilleuses promesses du royaume de gloire seront accomplies. Et les disciples de Jésus participeront à cet accomplissement, car il leur est fait la promesse de vivre et de régner avec lui pendant 1000 ans.
Ce fait glorieux est également une part de la foi délivrée aux saints une fois pour toutes, mentionnée par l'apôtre Jude.
Oui. Et toutes les vérités présentées par les apôtres. Par exemple, l'apôtre Pierre dit qu'à la seconde présence de Christ, il y aura des temps de rétablissement de toutes choses. Et ajoute que Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, qui annoncèrent les temps de rétablissement.
Ce qui fait, comme tu l'as souvent dit, de cette glorieuse espérance de délivrance du péché et de la mort, le grand thème conducteur de la Bible. Pierre, pouvons-nous être sûrs que la résurrection du monde incroyant sera une bénédiction pour eux?
Paul le dit sous une autre forme de la foi délivrée aux saints une fois pour toutes. Au 17e chapitre du livre des Actes, il déclare que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Veux-tu dire que les pécheurs seront bénis au jour du jugement?
Le jour du jugement est le jour de 1000 ans du royaume de Christ. Ce sera un temps d'épreuve, un temps d'essai, pendant lequel les hommes éclairés auront une occasion favorable d'apprendre et d'obéir à la justice, et sur la base de l'obéissance, vivront toujours. Oui, ce sera un temps de bénédiction. Ne penses-tu pas ainsi, Thomas?
C'est ainsi que je comprends les enseignements de la Bible, Pierre. Chers amis, vous en apprendrez encore davantage par l'article « Espérances et perspectives du chrétien ». C'est le 9e d'une série examinant tous les livres de la Bible. Il étudie les livres des apôtres Jacques, Pierre, Jean et Jude. Demandez un exemplaire gratuit de cet article intéressant. Quelle assurance avons-nous que Dieu répond à nos prières? Pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir? À quelles conditions les chrétiens peuvent-ils espérer vivre et régner avec Christ? Quelle est la fin prophétique du monde et comment savons-nous que la race humaine continuera de vivre sur la terre après la fin du monde? Comment savons-nous que les vivants ne peuvent parler avec les morts? Ce sont quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « Espérances et perspectives du chrétien ». Demandez-en votre exemplaire gratuit. Demandez simplement l'article « Espérance ». Ce seul titre suffit. Il vous sera envoyé gratuitement et franco. Demandez-le dès maintenant car c'est la dernière fois que nous pouvons en faire l'offre. Ce programme d'études bibliques vous est offert par l'Association des étudiants de la Bible Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et nos amis de partout.
Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.